Quindi
no,
no,
no, no, no,
certo.
Boh.
No,
tutti
Alors merci à tous, tous qui êtes là. Je suis très contente d'être là avec Daniel parce qu'on a aussi une longue, longue histoire qui date aussi de ces années-là. Et puis, parce que pas tout le monde me connaît, donc je vous fais une petite bio express. Je suis née en 1945 à Genève, de père et de mère genevois. Un père-fils d'émigrés uranais, si on peut dire, petit-fils d'émigrés uranais, prof au collège, et une maman, mère au foyer, licenciée en droit et venant d'une grande famille genevoise, voilà. Et j'ai fait mes études à Genève, des études d'architecture, j'ai vécu presque toute ma vie, sauf deux petits épisodes dont je vous parlerai plus tard. Et je viens de prendre ma retraite et j'ai un fils qui s'appelle Luca qui était censé venir, mais on va bien voir s'il apparaît. Voilà. Alors ça c'est ma bio tout à fait réduite. Ensuite, je me suis dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter. Alors je me suis dit que j'allais essayer de vous donner une vision subjective de ma vie, parce que finalement on me demande de parler de 60 ans et 60 ans de vie. Donc comment je vois maintenant, qu'est-ce qui émerge, voilà. Donc c'est une vision tout à fait subjective de mon existence que je vais essayer de vous livrer à partir de cet angle de vue qui est quel est ce moment de mai 68, qu'est-ce qu'il a voulu dire dans ma trajectoire. Alors quand je repense comme ça à ma vie, je distingue ce que j'appelle, comme nos amis de Leeds, là, Olivier, les moments of Ixchesh, les moments, disons, où le temps paraît suspendu, où l'intensité des engagements, des projets, des événements n'est plus forcément de l'ordre du réfléchi, du raisonnable, et on n'a pas du tout la conscience qu'on vit un tel moment, on est complètement pris par... voilà, l'histoire dans laquelle on est, et on est plutôt dans l'ordre de la passion, on a l'impression que le monde s'ouvre, qu'on échappe très temporairement au sentiment généralisé que les choses sont comme elles sont, et qu'il faut juste s'adapter, voilà, que le monde a une lourdeur propre, difficile à bouger. Et puis il y a des périodes, que j'appelle les plages de raison, où la gestion du temps, des engagements, fait l'objet de beaucoup de volontarisme, beaucoup de rumination intérieure, beaucoup de négociations. On n'est pas porté comme ça par des circonstances. Alors voilà, je commence à vous raconter ma vie en distinguant ces différentes périodes. Alors entre 0 et 18 ans, ça a été une longue plage de raison, saupoudrée d'un peu d'ennui et de beaucoup de rêveries, dans un monde familial, scolaire, et entouré de femmes à la maison, parce que j'avais quatre sœurs absolument adorables par ailleurs, et j'étais envoyée dans une école non mixte. Donc vraiment un monde peu mixte, très très centré sur la famille, l'école, et puis beaucoup beaucoup de présence féminine. Alors à 18 ans, je décide d'étudier l'architecture. D'abord j'étais sûre, j'avais trouvé un milieu mixte, il y avait peu de filles, donc ça c'était une motivation très importante. Il n'y avait absolument personne de ma famille dans ce monde-là, c'était une autre motivation. J'avais le goût pour les belles villes et les ruines, grâce à nos parents qui nous avaient promenés dans toute l'Italie, dans toute la Grèce, dans toute la France. On avait ce goût pour les belles choses. Et puis j'ai eu une camarade de classe qui me dit, viens avec moi, je vais faire architecture. Et puis j'ai réfléchi, je pense, un quart d'heure. Et voilà, je me suis lancée dans cette affaire-là. Alors on s'est retrouvés deux petites nanas dans ce monde de l'école d'architecture. Donc ça c'était en 64, quelque chose comme ça, 60, 65, ouais, quelques années avant mai 68, dans un monde un peu rétrograde au niveau des enseignants, c'était vraiment la profession libérale, les beaux-arts, c'était assez macho, mais on était aux anges parce que c'était plein de gens étranges et merveilleux qui étaient nos camarades d'études, des autres étudiants. Il y avait des gens plus âgés, il y avait des gens qui venaient d'ailleurs, il y avait des gens de toutes les classes sociales. Donc moi, simplement d'être là au milieu, voilà, j'étais tout à fait heureuse comme une reine, c'était vraiment la découverte du monde, même si de fait, voilà, on était dans un milieu tout à fait rétrograde. Mais déjà dans l'année 67 et au début de l'année 68, la partie critique des étudiants ont commencé à faire tout un mouvement de grève, d'assemblée, etc. On voulait changer notre école. On ne voulait plus cet enseignement rétrograde. Donc, mai 68 nous a rattrapés quand on était en plein dans une lancée, en fait, de réformer notre école. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé mon premier moment, moment of excess, c'est-à-dire cette période qu'on a vécue pour changer notre école. Et puis on est rattrapés par un mouvement qui nous dépasse complètement et qui donne une toute autre couleur, évidemment, à notre petit mouvement estudiantin très fermé sur lui-même. Et en fait, on a gagné. Donc on a pu virer tous nos profs, on s'est mis à gérer l'école nous-mêmes. On s'est inventé un enseignement et on a choisi aussi des nouveaux profs, beaucoup parmi les étudiants. Donc c'était ma première expérience de participation à une lutte, à un mouvement et avec un certain succès. Donc en fait je pense que j'ai été marquée pour la vie par cette expérience réussie qui m'a donné un optimisme que je pense n'est pas toujours pertinent, mais disons que je traîne avec moi, qui est certainement des fois hors de propos. Donc c'est un peu mon côté « yes we can », comme disait le camarade bien connu. Voilà. Alors en automne 68, évidemment, le mouvement retombe. Je vais m'engager en politique. Alors là, une anecdote que je vais partager avec Daniel, qui vient à ce moment-là à Genève, et avec Marie-Louise, donc ils arrivent les deux depuis Lausanne, et moi je discute avec eux, je leur dis je veux faire de la politique, mais je ne sais pas très bien où aller, est-ce que je vais aller au Parti communiste, parce que plein de gens y étaient, ils me disent viens avec nous, on est trotskistes, on va aller chez les trotskistes. Alors moi, ça m'a pris de nouveau 15 minutes pour me décider, donc moi je prends des décisions rapides. Il y a des personnes clés comme ça qui me tendent une main, je la prends et hop, voilà. Donc je me suis retrouvée chez les trotskistes, à suivre des cours de formation, à distribuer les tracts devant les usines. En fait, ça a duré exactement 9 mois, notre expérience trotskiste. On était tout un groupe de jeunes architectes, on est tous ressortis le même jour, avec un texte que j'aimerais bien retrouver, parce qu'il était pas mal. Et en fait, en tout cas pour moi, ni mon métier, ni mon autonomie, ni ce que j'étais pouvait faire partie des préoccupations de l'organisation. Il fallait être un bon soldat qu'on envoyait ici et là et se faire former. Donc, voilà, on est ressorti assez vite. Après, j'ai pu faire mon diplôme en poche. J'ai fait une virée aux USA, seule comme une grande, et j'ai rencontré plein de femmes du mouvement de libération des femmes, et j'étais vraiment mûre, j'étais bonne accueillie. Après cette expérience et les trotskistes, ils ont des femmes qui me disaient, voilà, tu peux partir de toi, qu'est-ce que tu es, etc. J'étais entièrement réceptive, disons, à ces rencontres, et à mon retour, justement, avec un petit groupe de copines, on a commencé très timidement à faire des réunions entre femmes, et puis voilà, on a commencé à créer ce qui est devenu le MLF, il y avait notamment Gabi dans ce petit groupe. Et puis après, disons, moi j'ai vécu quelques années, ça c'était vraiment la plage de raison. Hein, je suis allée à Londres, c'était des périodes comme ça pour moi assez difficiles. Mais quand je suis revenue de Londres en 74, c'était vraiment, le MLF il avait grandi pendant que j'étais loin, grâce notamment Arina et d'autres qui sont dans cette, enfin beaucoup de celles qui sont dans cette pièce, le mouvement il s'était renforcé, il avait vraiment pris toute une dynamique et vivre autrement, hein, changer sa vie quotidienne, c'était vraiment tout à fait à l'ordre du jour. Il était, voilà, on voulait changer la vie, on voulait faire la politique autrement et tout ça. Donc là, j'ai rencontré Viviane Gonick qui me dit, viens chez moi, j'habite en commune. Là aussi, décision prise en à peu près 15 minutes. Autre rencontre décisive dans ma vie. Et en fait, cette histoire de vivre en commune avec plusieurs personnes qui sont ici, ça a duré une dizaine d'années. Et je pense que pour moi, cette décennie, c'est mon deuxième moment, momento vixes. On était vraiment porté par toute une réflexion sur nos vies, et on faisait constamment des choses qui nous paraissaient les plus intéressantes sur l'habitat, sur on a commencé à faire des enfants, sur comment élever les enfants, les rapports entre les papas et les mamans, tout ça, ça faisait partie de tout un ensemble. Et on militait beaucoup, hein, le métier que j'avais quand même beaucoup aimé, il passait complètement au deuxième plan. Je vivais de petits boulots. Et ça a duré quelques années. Disons, on voyait que la vie quotidienne, elle peut être partagée, elle peut être drôle. Et la politique n'est pas une affaire ennuyeuse avec des petits chefs qui pourrissent la vie. Tu peux vraiment être créatif et faire aussi ce qui te plaît avec toutes les actions qu'on a faites pendant cette période. Mais en ce qui me concerne moi, dès 80-81, je sens le bout de cette histoire qui restait très eurocentrée. Disons, on était vraiment centré sur nous, sur Genève, l'Europe et tout ça. Donc moi, et je pense beaucoup d'autres gens, on bouquine, on commence à se dire, mais comment marche le monde? Avec un groupe de copines, on va en Colombie, on va au Nicaragua, avec des petits-enfants, ce qui était un autre moment d'excès. Et puis, il y en a un là.
L'enfant, il est là.
Hein. Voilà, notamment avec ce jeune homme qui avait 3 ans et demi. Et puis Marie-Jo Glardon et sa fille, que beaucoup de gens ici connaissent. On avait aussi créé au sein de notre groupe de femmes un petit groupe de travail qu'on avait appelé Blé et Chador, qui était un nom, je pense, bien pensé par rapport à ce qui se passe maintenant. Et ça, c'était en 80-81. Bon, l'envie de bouger me prend. Je me dis, il faut que je parte, il faut que j'aille voir, pas seulement en voyage, il faut que j'aille vivre un peu ailleurs. Et je me lance dans l'aventure du Nicaragua, en entraînant évidemment Luca, qui avait maintenant à peu près 6 ans, et puis Jean-Pierre Sêtre, son papa. On est parti pour 2 ans, on est resté environ 5 ans, et ça a été un des autres grands moments, momento vixes de ma vie, ça a été ces 5 ans au Nicaragua. Au Nicaragua, je retourne vers mon métier, c'est-à-dire moi je suis là, je travaille pour le gouvernement dans une petite ville, on me demande de l'exercer, donc de faire l'architecte dans un tout autre contexte que Genève, dans un processus de changement social pour un État révolutionnaire, avec tout ce que cela veut dire en bien et en mal. Alors moi, je pars de l'idée que tout un chacun, y compris les paysans et les ouvriers agricoles du Nicaragua, parce que c'est pour ces gens-là qu'on me demande de faire des petits plans de maisons, de quartiers, etc., ont droit à un peu d'architecture et d'urbanisme dans leur habitat. Il n'y a pas de... Voilà, je ne peux pas faire une hiérarchie dans mes clients, même s'il faut faire des kilomètres de mauvaise route pour aller voir le terrain, voir le chantier, etc. Donc, on se lance dans ce boulot. Mais malheureusement, la contre-révolution, elle démarre plus ou moins à ce moment-là, et elle met des embuscades tout à fait mortelles sur la route, justement, des gens qui vont voir ces villages, voir ces terrains, faire ces projets pour des coopératives, etc. Donc, il s'agit de prendre des risques au nom du travail bien fait, au nom du fait que moi je ne fais pas un plan sans avoir été voir le terrain, je dois avoir un topographe, etc. Donc, il y a toute une dynamique qui s'installe là autour, qui n'est pas tellement au nom de la révolution, mais simplement, voilà, je suis là, je fais mon boulot, alors je le fais bien. Mais quand ça commence à devenir vraiment grave, on a des collègues qui tombent dans des embuscades, qui meurent. Je me demande vraiment, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars? Ou bien est-ce que je reste, quoi? Alors, comme mes collègues les plus proches, eux, n'avaient pas du tout cette option de partir, on a décidé de rester. Donc, Jean-Pierre et moi, et d'autres amis qui étaient aussi là dans cette période, on a continué d'aller travailler dans ces zones de conflit, en prenant des précautions, etc. Donc à risquer aussi un peu notre peau dans cette affaire, jusqu'à ce que le gouvernement de Suisse nous dise maintenant arrêtez, suite à la mort de Yvan et Joël. Donc, quand il y a eu des Suisses et des étrangers qui sont morts, tout à coup les gens se sont aperçus de ce qui se passait. Quand c'était des gens du Nicaragua, ça ne mouvait pas grand monde. Donc ça, c'est quelque chose. Voilà, qui je pense m'a beaucoup marqué cette période de mon travail professionnel, en fait, avec un engagement un peu, quand je me dis avec le recul, c'était un peu extravagant, disons, de faire tout ça, mais à l'époque ça paraissait normal, et puis ça c'était aussi beaucoup le lien avec les collègues de travail qui comptaient. Bon, au Nicaragua, j'ai aussi participé à la naissance du mouvement des femmes, parce qu'il y avait une demande très très grande des femmes du Nicaragua. Et nous-mêmes, on était tout un groupe de coopérantes, on avait aussi très besoin d'avoir un espace un peu moins machiste, etc. Donc on a un peu remis. Voilà, j'ai pu participer aussi à la naissance du mouvement des femmes au Nicaragua. Mais en 89, donc, nous rentrons. Donc, Jean-Pierre, il rentre avant nous, après il y a Luca, après il y a moi qui rentre. Et voilà, je pense qu'on a en tout cas les trois, je pense qu'on a été marqués par le fait d'avoir partagé un petit bout de la trajectoire des gens qui avaient eu ce courage. Voilà, d'abord face à la dictature, et puis après, par rapport à la contra, disons, de vivre de cette façon. Fin 89, donc on est déjà revenu à Genève, on apprend que la révolution sandiniste s'arrête, parce qu'ils ont perdu les élections. Bon, ça, on ne s'y attendait pas, on est un peu surpris. Et puis commence une longue plage de raison, ce que j'appelle, c'est-à-dire on doit organiser notre vie. Moi, je deviens fonctionnaire, on vit en petite famille, dans un appartement, Luca doit aller au cycle, on doit organiser une vie, voilà, qui n'a plus grand-chose à voir avec un moment d'excès. Il y a aussi le mur de Berlin qui tombe, donc il y a beaucoup de choses qui... Il y a une période grise, disons, qui est vécue par beaucoup, beaucoup de gens, même si on n'était pas des communistes au sens traditionnel, disons, tous ces événements, c'est vrai que ça nous affecte. Alors je pense que dans cette période, la grève du 14 juin, je ne me souviens plus en quelle année c'était.
91,
voilà. Elle est venue nous amener un moment d'excès dans toute cette raison. Disons. Je pense que ça a été une bonne respiration, mais c'est vrai que ça a été une euphorie, puis après, on a un peu pris dans les gencives la retombée du mouvement, et je me sens, je pense comme des milliers d'autres gens, un peu enfermés dans ma ville, dans ma vie, etc. Bon, dès 94, les apatistes vivent un grand moment de leur lutte et arrivent à nous faire partager beaucoup de cette chose qu'ils vivent de façon tout à fait extraordinaire. Et pour moi et pour beaucoup d'autres gens, ça aboutit, disons, qu'au mouvement altermondialiste, à l'AMP, et notamment la grande rencontre de l'AMP en 98, voilà. Et ça, ça vient nous donner de l'air, du souffle, et des nouveaux amis, des nouvelles personnes qu'on connaît, qui sont des dirigeants de mouvements paysans ou mouvements indigènes, plus ou moins de la planète entière. Alors on voit que le mouvement ouvrier traditionnel n'est pas en force, mais ces mouvements qui viennent d'ailleurs nous ouvrent encore une fois les yeux sur notre eurocentrisme qui est incorrigible. Disons, on n'a jamais fini d'être eurocentriste et de connaître tous ces gens, de les rencontrer et de partager des petits bouts de leur vie. Je pense que ça nous redonne un peu de souffle. Et on rencontre des gens comme Evo Morales et bien d'autres qui sont restés plus anonymes, mais qui sont tous des gens extrêmement courageux, extrêmement futés, et qu'on continue de fréquenter un peu de près ou de loin. En 98, il y a aussi un ouragan au Nicaragua qui met à nu complètement ce territoire, qui montre qu'il est extrêmement fragile et sans défense, avec des dégâts absolument importants. Alors moi, je reçois une demande de soutien en tant que professionnelle du maire de Matagalpa, qui est la ville où je vivais, et je décide de répondre à cet appel, à cette demande d'aide, sans me douter justement de la complexité et de la durée de cet engagement dans lequel je suis toujours en fait. Donc ça marque le début d'une collaboration très intense et d'un va-et-vient qui continue pour moi entre le Nicaragua et Genève. Alors là, jusqu'à l'année dernière, en fait, je fais ce travail dans une gestion très très contrainte de mon temps, parce que j'avais un engagement professionnel important au département du territoire, du canton, et ce projet de Matagalpa, donc qui me laissait plus beaucoup de disponibilité pour d'autres choses. J'ai beaucoup laissé tomber finalement mes engagements, mes autres engagements locaux, mais ça m'a permis un développement professionnel qui pour moi, vraiment je le valorise, donc aussi bien à Genève qu'au Nicaragua, à travers toute la problématique sur le territoire, les quartiers, les municipalités, les outils de gestion du territoire, les nouvelles technologies, les collaborations avec d'autres métiers, travailler avec des agronomes, des gens qui s'occupent de l'eau, les élus locaux, etc. Donc ça a été une plage de raison, je peux dire, c'est 10 ans là, où je me suis beaucoup donnée à mon métier, en fait. Ça a été très absorbant, mais un apprentissage pour moi très très, très, très riche, qui a renforcé mon goût et ma conviction que le territoire et l'habitat, c'est vraiment quelque chose d'important. Et en fait, ce petit projet était parti d'une catastrophe très, très médiatisée, l'ouragan Mitch. On se retrouve bien 10 ans après, dans un contexte que j'appellerais l'injustice climatique. C'est-à-dire, au Nicaragua, il y a des mini-désastres multiples qui n'intéressent plus personne. Et puis à Genève, nos émissions de CO2 continuent gentiment de croître et d'embellir. Et puis, bon, on est dans une nouvelle charnière nord-sud qui, moi, m'interroge beaucoup, parce qu'en fait, ça fait un moment que je me suis mis dans cette histoire-là. J'ai encore quelques minutes ?
Oui.
Alors maintenant, j'ai pris ma retraite le 1er mai 2008. Alors en espagnol, ils disent la jubilación, ils disent pas la retraite. Alors j'aime mieux ce mot de la jubilación que dire retraite.
Jubilación.
La jubilación. Alors comme je me retrouve dans cette situation que. Comme Virginia Woolf le revendiquait pour toutes les femmes, elle disait les femmes, elles aimeraient avoir une chambre à soi, un espace à elles, et puis une petite rente pour pouvoir décider de ce qu'elles veulent faire. Alors je me retrouve dans cette situation avec une petite rente, du temps, et puis des espaces à moi. Et je pense que je suis une femme très chanceuse parmi toutes les femmes, parce qu'on n'est pas beaucoup à avoir, avoir ça même à l'âge de la retraite, de pouvoir voilà, finalement choisir où on veut être, qu'est-ce qu'on veut faire. Donc voilà, c'est là où j'en suis. Alors comment je vois plus ou moins les prochaines années? Alors avec le recul, je vois que ces moments d'intensité, de changement social que j'ai pu vivre, auxquels j'ai pu participer, ça a beaucoup été des cadeaux que la vie m'a fait. Je n'avais pas été guerrière au Nicaragua, je n'avais pas été une militante féministe. J'ai beaucoup reçu là. Mais je sais bien que tous ces mouvements, ces explosions, c'est le produit, voilà, de milliers de petites luttes, de milliers de révoltes, de milliers d'écrits, de milliers d'engagements, de milliers de gens qui sont restés très souvent très peu visibles. D'où je me dis, maintenant là où je suis, avec les gens que j'aime, il y en a beaucoup, il y en a dans pas mal d'endroits du monde, ben, si je peux contribuer à la maturation de nouveaux moments, et le fait de contribuer à cette maturation, ça rend la vie plus jolie tout de suite, disons, c'est pas comme si on était en train de préparer le grand soir. Donc c'est une philosophie un peu simplette, mais qui m'aide à, voilà, à vivre cette, la nouvelle plage de raison que je vois défiler devant moi. Alors au Nicaragua, je continue à m'impliquer sur un projet qui implique toute la région, qui était notre champ de travail et le théâtre de la guerre. Donc on voit que le travail de paix, il avance, mais il est inachevé. Donc c'est une grande chose pour moi de pouvoir y retourner pour de longues périodes et, voilà, et m'imprégner de cette réalité et travailler avec les maires, avec les acteurs locaux, avec les techniciens. Et de retrouver aussi des très chers amis, très vieux amis que j'ai là-bas, et d'en connaître aussi toujours de nouveau. À Genève, j'essaye de renouer un peu avec mes amis, mes voisins, les associations, parce que j'ai l'impression que j'avais beaucoup, voilà, j'étais beaucoup la tête ailleurs. Et disons dans ma tête, l'aller et retour entre deux mondes et deux cultures très différents n'est pas toujours aisé. J'ai des périodes où je me sens hors sol, ici et là-bas, donc je dois ramer dur pour que ça fasse du sens, disons, pour pas être quelqu'un qui est toujours avec la tête ailleurs. C'est une manière de vivre assez saugrenue, et c'est un petit peu une marque familiale, mais ça, c'est une histoire que je pourrais pas raconter, elle ne m'appartient pas. Voilà, donc en conclusion, mes 68, il m'a laissé finalement un métier que j'ai essayer d'exercer de manière différente dans différentes parties de ma vie. Il m'a laissé, je pense, un optimisme, et puis il m'a laissé aussi l'envie de vivre avec les autres, de faire des choses en collectif, de faire des choses en groupe. Disons ça, je pense que c'est quelque chose, c'est une grande force que m'avait donné ce premier moment d'excès, voilà, que j'ai eu la chance de vivre quand j'avais 22, 23 ans. Voilà.
Merci beaucoup.
Alors après Suzanne, c'est difficile. Je pourrais raconter juste une anecdote par rapport à ce que tu as dit. C'est le jour où elle est rentrée des États-Unis. Et j'ai en vu exactement ce jour. Elle a dit, tu sais, j'ai découvert là-bas le féminisme et tout ça. Et tous les hommes, vous êtes machos. Et ça m'est resté parce que je n'ai pas osé répondre à ce moment-là, sauf moi, éventuellement. J'ai dit maintenant. Quand je fais le bilan de 68, j'ai des choses négatives à dire, mais aussi de grandes louanges, et je commencerai par les reproches. Tout d'abord, le sectarisme. Je ne vise pas tant le sectarisme entre les groupuscules, qui rendait impossible qu'une maoïste adresse la parole à un trotskiste, que le sectarisme contre tous ceux qui n'étaient pas du côté de la révolution immédiate. La moindre compromission avec les réformistes ou avec l'ennemi de classe était jugée d'un point de vue moral et jamais comme un compromis tactique. D'où par la suite, quand on s'est aperçu que le capitalisme durerait un peu plus longtemps que prévu, un opportunisme honteux et beaucoup de reniements grotesques. Les plus sectaires sont devenus les plus puants, pauvre Bernard Kouchner, qui était donc maoïste. Une autre chose qui paraît aujourd'hui ridicule est le mépris des arts et des lettres qui a marqué cette génération. L'art devait être au service du peuple et la littérature au service des bons sentiments. Aujourd'hui encore, les journaux de l'extrême gauche considèrent comme culturelles des pages dans lesquelles ils s'intéressent aux programmes de télévision. Ils sont incapables de parler de musique classique ou de littérature contemporaine. Ceux qui voyaient dans la télévision l'intox à domicile sont désormais producteurs d'émissions historiques et nostalgiques, encore un sujet de tristesse. Le dernier reproche que je ferai à cette génération, donc la mienne, est qu'elle est, comme aucune autre, depuis des siècles, crispée sur ses postes et ses privilèges. Elle ne veut pas quitter la scène, laisser la place qui lui revient à la génération montante. Nous avons dénoncé les erreurs et les crispations de la génération qui a eu 20 ans dans les années 30. Il s'agirait de faire le même bilan critique pour ceux qui ont eu 20 ans dans les années 60. Dire ce sectarisme qui faisait de chaque Allemand un ancien nazi et de chaque industriel un fasciste. Or, lorsque l'un des membres de cette génération de 68 se risque à une autocritique, on le prie de se taire, comme le PC faisait taire les siens, on l'ignore ou on se désolidarise. C'est ainsi, et là je fais une petite insiste personnelle, qu'un ancien althusérien, stalinien de triste mémoire, désormais recyclé dans cette culture qu'il haïssait, traite d'assassin et de terroriste le moindre lanceur de cocktail Molotov. Voilà pour les reproches. Pour savoir ce qui reste de 68 au-delà de l'histoire individuelle, qui pour chacun est soumise aux aléas des rencontres, il faut partir, selon moi, de ce que cette génération avait en commun, c'est-à-dire une manière de penser et de ressentir, une méthode d'analyse du présent. On peut bien sûr travailler en boucle, appliquer cette méthode 68 à 68, mais il me semble plus judicieux de l'appliquer à la situation actuelle pour voir si elle opère encore. Si je réussis à comprendre le monde d'aujourd'hui grâce à cette boîte à outils développée pendant la période qui va de la guerre d'Algérie à la révolution culturelle chinoise, je montrerai que cette méthode, cette vision du monde, continue de faire ses preuves. Sinon, tant pis. La situation actuelle, camarades, est excellente. Le capitalisme se trouve devant une débâcle sans précédent depuis sa crise de 1929. La preuve est faite que malgré tout les divagations idéologiques des crapules de Wall Street et de Davos, le capitalisme n'est pas capable de vivre sans crise. On devrait donc s'en réjouir, puisque quand l'ennemi va mal, c'est une bonne chose. Mais on devrait aussi savoir quelle stratégie de sortie de crise prépare l'ennemi et quel scénario on va lui opposer. Donc, allons-y. Souvenons-nous, au sortir des Trente Glorieuses, c'est-à-dire aux alentours de 1975, le capitalisme ayant dû concéder d'importantes hausses de salaire dans la phase de reconstruction d'après-guerre, il a imaginé de changer de stratégie en modifiant à la fois les modes de production et la gestion des rapports de pouvoir entre les classes. Côté production, les automates, les robots, les ordinateurs sont apparus en masse dans les usines, rendant inopérantes certaines formes de lutte traditionnelle. L'informatisation, d'abord limitée à ce qu'on appelait le tertiaire, a peu à peu transformé tous les rapports de production. Côté rapport de classe, le système a remis au goût du jour l'ultralibéralisme d'avant la crise de 1929. Thatcher et Reagan ont démantelé les protections sociales, les mécanismes de redistribution, et augmenter massivement les écarts salariaux. Parallèlement, les gains de productivité n'ont plus été répartis à travers les salaires, mais seulement à travers les profits. En même temps, les salariés étaient invités à s'identifier au système, et même à en profiter, puisqu'après la chute du mur de Berlin, aucune alternative ne semblait en vue. Les salariés ne devaient plus hésiter à confier à la bourse leur caisse de pension et leurs espoirs d'enrichissement. Résultat, parce que leur salaire ne leur suffisait pas, des millions d'employés se sont endettés. Puisque leur salaire n'augmentait plus, ils se sont servis dans la caisse sans pouvoir envisager de rembourser jamais. D'où la crise de tout le système bancaire. C'est une morale ancienne. Si tu dois 100 dollars à une banque et que tu ne rembourses pas, tu es mal pris. Si tu dois 100 millions de dollars et que tu ne rembourses pas, c'est la banque qui est mal prise. Mais il y a un autre cas de figure, c'est celui où 100 millions de personnes refusent de rendre les 100 dollars qu'elles doivent chacune à leur banque. Alors là, c'est la banque qui est de nouveau en difficulté. La crise financière est donc, et ça c'est pas un peu. Cela dit, de la lutte des salariés américains en particulier qui ont utilisé le crédit pour compenser le manque de salaire. Et ceci confirme ce que 68 nous a appris, à savoir que l'histoire est l'histoire de la lutte des classes. D'un côté, on avait donc ce capitalisme qui croyait pouvoir revenir à l'ultralibéralisme, et de l'autre, ces salariés qui se sont si bien mis à jouer dans le camp du capital qu'ils en ont faussé les règles jusqu'à la crise. Face à cette situation urgente, le capital, bien sûr, s'invente une stratégie. Et il a sorti cette vieille marionnette qu'il avait si souvent ridiculisée, ce bon vieil État. C'était pour lui la seule manière de forcer l'ensemble des salariés à payer la remise en marche du système. Les milliards pour sauver les banques ont été volés dans les caisses de l'État dans un acte d'une violence qui ressemble à une guerre. Puisque vous, salariés, avez vécu au-dessus de vos moyens, vous allez nous payer ça en retour. Alors, cette manière d'analyser la crise contemporaine comme une conséquence des luttes mondialisées n'est bien sûr partagé ni par les médias dominants, ni par ceux qui renient leurs années 60, ni par ceux qui les glorifient à outrance, ce qui revient au même. Pour beaucoup, la crise est comme un coup de matraque des CRS sur le boulevard Saint-Michel. Mieux vaut faire le mort et attendre que ça passe. Cependant, la méthode 68, dont toute une génération se réclame, ce n'est pas seulement une manière de comprendre le monde, c'est aussi une volonté de se projeter dans l'avenir pour donner vie à une stratégie. En quelques mots, je voudrais dire ici ce qu'on peut faire de cette crise. Quel scénario mondialisé on peut lui opposer? Et pour cela, comme je suis meilleur en fiction qu'en politique, je me permets de proposer une petite scénette. C'est l'histoire d'un homme de 40 ans dans une chambre, un matin vers 9h, seul devant un écran d'ordinateur. Ses enfants sont à l'école, sa femme au travail. Il consulte sa correspondance, puis il lit un blog auquel il ajoute un commentaire. Il est l'un des 14 millions de chômeurs que compte l'Europe. Il a été chercheur dans un laboratoire de chimie organique. Il consulte à l'écran les publications de ses anciens collègues, suit quelques liens et finit par commander en ligne un livre qu'il n'a pas eu le temps de lire quand il était encore salarié dans la grande entreprise qu'il a licenciée. Plus tard, au hasard de son activité de surfeur, il répond à un questionnaire concernant la perception des changements climatiques et ce n'est qu'en fin de matinée qu'il a enfin le temps de recopier le journal de bord romancé qu'il entend publier à l'automne. Ça s'appellera « Journal d'un intellectuel au chômage ». Il en est au dernier chapitre, un vrai travail de romancier. Vers midi, il télécharge une recette de polenta proposée par un grand cuisinier italien et prépare le repas de ses enfants revenus de l'école. Il n'a pas vu s'écouler ces 4 dernières heures. Pendant qu'il passe son temps devant l'écran, butinant de site en site, à l'autre bout du monde, des programmes experts tracent son parcours, observent son comportement, utilisent ses réponses pour enrichir leur base de données. Google, Facebook, Microsoft et d'autres intègrent à leur base de connaissances le savoir-faire du chercheur solitaire. Voilà l'histoire. Elle n'est ni spectaculaire ni isolée. C'est le quotidien d'un chômeur, ancien chercheur en chimie organique, reconverti en surfeur, artiste, romancier. Son activité dans le monde hyper connecté de la toile correspond à celle d'une abeille qui va de fleur en fleur par un matin de printemps transportant le pollen le long de ses pattes velues. Elle féconde en passant et malgré elle les différents territoires de la nature. On considère aujourd'hui que l'apport principal des abeilles aux humains et à leur économie n'est pas tant le miel qu'elles produisent que leur activité de pollinisation. Pour l'agriculture française, elle équivaut à 2 milliards d'euros et aux États-Unis, on parle de 20 milliards par an. La disparition des abeilles provoquerait en moins d'un an l'effondrement de la production agricole et une famine mondiale. Dans le cas du chercheur, rapporté ici, on est frappé par l'activité qu'il déploie comme pollinisateur. On ne saurait le réduire à un producteur entravé, une abeille sans miel. Dans le cadre de son travail en réseau, non rémunéré, son utilité sociale est évidente, même si, dans les paramètres de l'économie classique, comme le PIB, elle n'est pas prise en compte. Voilà la situation présente et l'avenir. Il peut se présenter de deux manières, deux scénarios que j'esquisse maintenant, toujours sur ma petite scénette. D'abord le plus pessimiste, celui qui semble se dessiner quand on écoute les défenseurs de la loi Hadopi en France et de ceux de l'appel de Heidelberg en Allemagne, ont peur et veulent tout simplement restaurer le pouvoir à la Thatcher et à la Reagan, car ils ont oublié qu'un autre monde est possible. Imaginons la vie de ce chômeur dans 3 ans. Toutes choses égales par ailleurs, la crise continuant de faire subir ses effets aux salariés et aux chômeurs. Imaginons que notre homme fasse toujours partie des chômeurs européens, désormais passés de 14 à 20 millions ou plus, et qu'il ait toujours accès à la toile, mais à une toile désormais entièrement verrouillée, commercialisée. Au lieu de pouvoir suivre gratuitement les publications de ses anciens collègues, il sera écarté du site des revues par un péage exorbitant, à cause des brevets en cours, il n'aura plus accès à leurs blogs, il n'aura plus la possibilité de participer aux forums professionnels en ligne de son ancienne communauté, et même pas aux recettes de cuisine, leur téléchargement étant désormais encombré de tellement de publicité qu'il y renonce. En somme, il sera advenu à la toile ce qui était advenu, et que nous avons bien connu, aux radios libres. Au début, elles méritaient leur nom. Ensuite, elles ont été accaparées par ceux qui pensent que les fréquences FM sont un vecteur publicitaire et traitent les abeilles comme de vulgaires vaches à miel. Restera pour notre chômeur amateur la liberté de vendre son roman en ligne, mais pour avoir accès à une rétribution, il devra renoncer à ses maigres indemnités de chômage, une situation pour lui impossible. Ceci est pessimiste. Il en existe un autre qui semble plus intéressant. Imaginons que dans les 3 ans qui viennent, la toile, par exemple, soit utilisée de manière de plus en plus intelligente et libre. Tous les chercheurs dont les travaux ont été payés par des fonds publics ont mis leur contenu en ligne. Les chercheurs de l'industrie privée, eux, échangent le plus possible d'informations et de connaissances. Open access généralisé à la manière Wikipédia, les codes sources des systèmes d'exploitation, des programmes bureautiques, des moteurs de recherche sont à disposition en open source. D'ailleurs, tous ceux qui mettent en ligne des contenus artistiques ou intellectuels le font sous le régime des Creative Commons, c'est-à-dire un type de licence qui permet à d'autres utilisateurs de RAID pour le développer, pour l'enrichir ou tout simplement pour en prendre connaissance selon les diverses modalités. La thèse commune produite de lui être accessible. Mon scénario plus optimiste, apportant un défaut que les tenants du premier scénario aiment à exagérer, la liberté sur la toile, disent-ils, va tuer la créativité et le développement des emplois. Et donc cette triste chanson, celle du banquier des subprimes, qui veut récupérer sa mise. On sera de concert avec certains artistes qui se prétendent piller et déposséder de leurs œuvres par un simple clic. C'est du moins ainsi que les éditeurs et les distributeurs de films, de livres et de CD peignent de couleurs sombres l'avenir de la liberté. Pour eux, il n'y a pas d'autre avenir possible que celui de l'esclavage au service de la finance mondialisée. Ce qui est vrai dans ces lamentations, c'est que la piraterie, surtout quand elle est pratiquée à grande échelle par les commerçants qui s'en offusquent par ailleurs, enlève une source de revenus aux travailleurs immatériels. Le deuxième scénario, tout en étant le plus réaliste, a donc besoin de mesures politiques, d'accompagnement qu'il faut inventer dès lors qu'on reconnaît l'activité pollinisatrice de toute force d'invention reliée à la toile. Notre chômeur ne doit plus être tenu pour une force de travail incapable de trouver preneur, mais pour une force créative d'invention dont est reconnue la vertu que j'appelle pollinisatrice. Et comment reconnaît-on la valeur d'une telle opération? En l'honorant par de l'argent. La richesse présente sur Terre est désormais suffisante pour distribuer à chacun un revenu d'existence, un revenu citoyen universel et sans condition, c'est-à-dire un revenu cumulable avec d'autres revenus. Utopique, dira-t-on, c'est ce qu'on disait aussi quand les syndicats ont commencé à imaginer l'éducation gratuite pour tous les enfants, l'école financée par la richesse commune jusqu'à l'âge de 16 ans et au-delà. Utopique, a-t-on dit, encore, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, quand a été arrachée de haute lutte la couverture sociale minimum pour tous. Aujourd'hui, de même, un revenu citoyen universel constituerait l'une des seules vraies réponses à la crise du modèle financier. Il permettrait de valoriser la formidable activité de pollinisation qui se déploie grâce au travail devenu de plus en plus immatériel. On peut alors envisager avec sérénité que sur la toile, l'interconnexion de toutes les informations, de tous les savoirs et de toutes les connaissances débouche sur un exercice complètement différent de la vie quotidienne, de l'art et de la recherche. On retournera au temps où les abeilles ne semblaient être que des vaches à miel et les salariés les otages des banques. Il y a aujourd'hui dans le monde, et notamment aux États-Unis, un vaste mouvement pour garder ce qui est acquis. Occuper les maisons, ne pas rembourser les dettes. Je le répète, la situation est excellente, camarades. Le capital est en crise, nous avons un plan, la réappropriation des ressources. Je n'ai pas parlé de mon rapport personnel à 68. Je préfère dire ma solidarité avec les méthodes et solutions de cette génération. À la fin. Thank you.